De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, comme avec cette crise sanitaire, les salles de cinéma ont fermé, la VOD vidéo à la demande a pris de plus en plus de place. Si peu de films sont sortis directement en VOD, certains distributeurs ont fait ce pari. The Room fait partie de cette catégorie, tout comme Pinocchio de Matteo Garrone, dont les droits ont été achetés par Amazon pour sa plateforme de streaming. Ces émissions en mode confinement, l'équipe est encore éparpillée, hein, nous permettent de mettre en avant aussi des films qui n'ont pas forcément bien fonctionné en salle. C'est le cas de Oscar et Lily et Underwater. Et puis dans cette émission, on ne vous parlera pas de Netflix, mais de Spamflix, une plateforme qui met en avant des films cultes et rares. On écoutera son responsable, Marcus Döpfner. Enfin, on terminera l'émission avec la chronique du couteau de glace, un bon vieux DVD Blu-ray préparé avec amour par un éditeur scrupuleux. Mais on débute l'émission avec Pinocchio de Matteo Garrone, film présenté au Festival de Berlin qui n'a pas pu sortir en salle. Il est en exclusivité sur Amazon Prime.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Voilà, j'ai presque fini. Pinocchio, dis quelque chose, allez, remue la bouche, hein, pour ton papou. Tiens, dis-le. Dis papou. Papou.
Papou.
Cela fait plus d'une vingtaine de fois que le personnage de Pinocchio, initialement imaginé par l'écrivain Carlo Corlodi, prend vie sur les écrans depuis la première adaptation des aventures de Pinocchio en 1911. Avant, la version live signée Guillermo del Toro pour Disney, qui sortira d'ici un an, c'est celle de Matteo Garrone, que l'on peut découvrir en VOD avec Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto. Alors, précision amusante, Roberto Benigni a lui-même réalisé sa propre version de Pinocchio en 2002, il y a donc 20 ans, et en s'octroyant le rôle-titre, avec d'ailleurs assez peu de succès, hein, puisque le film n'avait pas convaincu les critiques, à l'inverse de cette nouvelle version qui semble déjà faire l'unanimité.
J'ai un petit garçon, vous entendez?
Qu'est-ce qui t'arrive?
Je viens d'avoir un petit garçon, je suis papa.
Pinocchio, tu aimes la façon dont je t'ai fait? Moi, j'aime beaucoup.
Au revoir, mon fils, au revoir.
Alors, pas ou peu de changements ici par rapport à l'histoire initiale. Geppetto est un menuisier aussi pauvre que seul qui sculpte un jour un petit garçon dans un bout de bois. Contre toute attente, la marionnette prend vie et Geppetto se retrouve contraint d'exercer son rôle de père avec difficulté, car Pinocchio s'avère être un petit garçon très désobéissant qui ne pense qu'à s'amuser, fait confiance aux mauvaises personnes et a une forte propension au mensonge, ce qui, comme chacun sait, a pour effet immédiat de lui faire allonger le nez.
Je me présente, je suis le renard.
Pinocchio.
Magnifique ce nom.
Et
magnifique.
Moi, je suis le chat.
Pinocchio.
Magnifique ce nom, magnifique.
Et pourquoi tu ne me racontes pas ce qui t'est arrivé? J'ai croisé deux assassins dans le bois.
Mais qu'est-ce que j'en ai tout à coup?
Oh, ce n'est rien, tu sais. Étant donné que tu me dis des mensonges, tu as le nez qui s'allonge.
Viens, viens.
Pinocchio, souviens-toi. Rien ne réussit aux enfants qui désobéissent sans cesse. Ils finissent par s'en mordre les doigts.
Chez Matteo Garrone, à qui l'on doit le sanglant Gomorra et le très sombre Dogman, même le conte devient cruel. Il n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisque le réalisateur italien avait signé Tale of Tales, qui signifie littéralement le conte des contes, un film fantastique sorti en 2015 qui mêlait plusieurs histoires de sorcières, de fées et de Grèce. Avec Pinocchio, il s'attache à réaliser un film pour enfants, sans pour autant renoncer à son style si reconnaissable. Plan large, photographie superbe faisant la part belle au clair-obscur et personnage jamais totalement pur mais dont le ridicule confine à la tendresse.
C'est parti !
Mesdames et messieurs, voici pour vous Pinocchio !
Fais quelque chose s'il te plaît, il va tout casser !
Pinocchio !
Papou arrive, t'en fais pas !
Je vais dans un beau pays. Il s'appelle le pays des mille joies.
Bien que son penchant pour la noirceur soit encore ici palpable, le réalisateur réussit parfaitement un film à destination du jeune public, mais aussi à destination d'un public plus adulte. On apprécie également que le film soit tourné en langue italienne, la seule étrangère au casting étant la comédienne française Marine Wacht. Seul bémol, un film avec une telle photographie et une telle lumière, dans lequel chaque plan semble être un tableau, aurait mérité une sortie sur grand écran.
Toi et moi, on va jouer les magiciens.
Je veux devenir un petit garçon comme ceux de mon âge.
Pinocchio de Matteo Garrone, vous le retrouvez sur la plateforme Amazon Prime depuis début mai, après la relative grosse production coup de projecteur sur un film autrichien que l'on avait chroniqué lors de sa sortie en mars dernier et qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer son public. C'est Oscar et Lily.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Sorti juste avant le confinement, soit le 4 mars, Oscar et Lily n'aura quasiment pas eu de carrière dans les salles obscures. Un coup dur pour ce joli film fragile qui, heureusement, est sorti et sort du coup en VOD il y a quelques jours, là, donc disponible sur plusieurs plateformes. Alors, deuxième mouture d'un triptyque ayant pour thème l'exil, commencé il y a 10 ans avec Pour un instant de liberté, Oscar et Lily de Harar Rehaï, cinéaste autrichien d'origine iranienne, et l'adaptation d'un roman de Monica Elfer, s'inspirant de faits réels. Alors, l'histoire édifiante est ancrée dans une réalité aussi banale que terrifiante. Oscar et Lily, deux enfants d'origine tchétchène, sont sur le point d'être expulsés d'Autriche avec leur mère. Suite à une tentative de suicide de leur mère, du coup, pour les protéger, l'expulsion est temporairement suspendue. Les deux enfants sont séparés et chacun placé dans une famille d'accueil. Alors Lily se retrouve chez une femme célibataire attachante, mais qui malheureusement s'est entichée d'un beauf égocentrique qui n'accepte pas la présence de la jeune fille. Quant à Oscar, lui, il atterrit chez un couple, on va dire, de profs écolo-bobos qui ne mangent pas de viande, refusent les gros mots, n'ont pas la télé et bien sûr vivent dans un environnement paisible. Alors là, on tique un petit peu, la caricature n'est pas loin et on se demande si le réalisateur ne règle pas des comptes avec un milieu tolérant en apparence, mais qui ne l'est pas tant que ça, pris en tenaille par des contradictions. Alors heureusement, la mère du mari, Erika, atteinte de Parkinson, va égayer le quotidien et un peu le nôtre aussi, de Oscar, qui, détail amusant, ne comprend pas que ces gens ne mangent pas de viande alors qu'ils en ont les moyens. L'espoir des enfants de retrouver leur mère internée se nourrit de leur amour réciproque, de leur bravoure à vaincre tous les obstacles d'une bureaucratie insupportable. Alors l'ouverture impressionnante, réalisée avec un vrai sens plastique tant d'un point de vue des cadrages que du montage, place les enfants au cœur d'une réalité, les mettant à rude épreuve. La police intervient au domicile. Une police, par ailleurs, filmée sans complaisance ni outrance. Juste des gens qui font un sale boulot et qui ne semblent pas jouir de leur pouvoir. Le sujet est fort, mais le traitement est-il à la hauteur des ambitions? Alors oui, en partie, malgré quelques réserves. Le réalisateur, qui, dans le dossier de presse, d'ailleurs, affirme trouver irresponsable de ne pas faire de film politique dans l'époque où nous vivons, bon, c'est à voir, c'est un point de vue. Alors ne choisis pas la facilité pour décrire le quotidien malmené de ces deux enfants à la recherche de leur mère et d'une intégration difficile. Il s'oppose au naturalisme, préférant jouer la carte de l'onirisme, quitte à se rayer sur le plan formel un chemin du côté du cinéma de genre. Alors grâce au talent de son chef opérateur, il multiplie les mouvements de caméra complexes, trouve des angles de prise de vue insolites, soigne particulièrement les images, au risque parfois d'une joliesse esthétique gratuite. Alors la caméra monte, descend, caresse les personnages, la douceur de la mise en scène surprend. Il y a presque une contradiction, on va dire, entre la forme et le fond, rendant le film étonnant, presque schizophrène dans son approche. Alors attention, on n'est pas non plus chez Jean-Pierre Jeunet. Mais Harar Rehaï pose sur l'enfance un regard plein de tendresse, il s'empare de leur imaginaire et de leur force vive, pour nous offrir un beau film traversé de magnifiques séquences de rêves très oniriques qui flirtent avec le fantastique. Alors fuir une certaine réalité, ce n'est pas abdiquer. Il faut chaque jour dans le monde de l'enfance réinventer cette réalité tout en la regardant en face. Et les jeunes comédiens sont absolument remarquables. Qualité indéniable de ce second long métrage dont on attend le troisième déjà en tournage. Le film est donc disponible en VOD.
Pas Passons maintenant à l'interview de cette émission. Elle concerne une nouvelle plateforme qui vient d'être lancée sur les différents supports web, iOS, Android, Chromecast et Android TV. Son nom, Spamflix. Un clin d'œil à Netflix, évidemment, et au spam. Alors, non pas le courrier indésirable qu'on reçoit dans sa boîte mail, mais le sketch des Monty Python, diffusé en conclusion du 25e épisode du Monty Python's Flying Circus.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. What else? Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Depuis la fermeture des salles de cinéma, sauf pour ceux qui s'en tiennent aux DVD et Blu-ray, eh bien la VOD a gagné du terrain, à tel point que le CNC, le Centre National de la Cinématographie en France, a bouleversé la chronologie des médias en autorisant la mise à disposition des films en ligne avant la date légale. Alors certains studios y ont pris goût, c'est le cas d'Universal. Faute de pouvoir exploiter en salle son Troll 2, tournée mondiale, le studio l'a rendu disponible aux États-Unis sur sa propre plateforme pour $20, soit un peu plus de 18 euros. Et là, bingo, le patron d'Universal a annoncé fièrement que le film avait emmagasiné $100 millions de recettes, soit $92 millions. Une sortie dans la presse que la chaîne de cinéma américaine AMC a très mal pris, menaçant de ne plus accepter de film Universal à l'avenir dans sa programmation. Probable que le studio change sa stratégie de communication à l'avenir, d'autant que les chiffres que le patron du studio a annoncés sont bruts et qu'il y a peu de chances qu'il fasse aussi bien à l'international avec un tel prix de vente. Les films sont beaucoup moins chers sur la plateforme dont je vais vous parler maintenant. Il s'agit de Spamflix, une plateforme de streaming pour les films cultes et rares, avec une cinquantaine de films proposés pour l'instant en location 72 heures à 4 euros. On peut y voir des succès de festivals jamais sortis en salle ou des films comme le brésilien Les Bonnes Manières ou pour s'engager vers le culte, les films de Quentin Dupieux. On a pu discuter avec Marcus Döpfner, celui qui a fondé Spamflix. L'homme est très implanté dans le monde du cinéma puisqu'il est responsable de la régie publicité du film français à l'international et il a en charge 3 sections au Festival du film de Locarno.
This is Cinérama.
Bonjour Marcus Döpfner, vous êtes le fondateur de Spamflix. Comment est née cette plateforme d'un genre particulier ?
Spamflix vient d'une frustration que j'ai eue pendant les années que je travaille dans l'industrie pour différents festivals et pour le film français aussi, qui m'a permis de voir pas mal de films qui ne sont pas disponibles dans tous les territoires. La plupart de ces films sont en fait disponibles que dans leur territoire de production et parfois même pas trop diffusés dans leur propre pays. Donc je crois que ces films ont un public potentiel qui n'a pas la chance de voir ces films-là. Pour cette raison, on a décidé de monter Spamflix pour donner une chance à ces films de rejoindre leur public potentiel.
Pourquoi Spamflix ? On voit le jeu de mots avec Netflix, évidemment, la grande plateforme, mais le spam ?
On a pris le nom de Spamflix et on fait un hommage à Monty Python et au spam sketch, qui reprend un peu toute la philosophie du nonsense. C'est ça notre philosophie derrière la plateforme, c'est de jouer sur le ludique, sur le nonsense. Et si on veut trouver un fil rouge parmi toute la ligne éditoriale et les films, c'est un peu cette façon de jouer et voilà, d'avoir la possibilité à travers le nonsense reprendre quelque chose qu'on connaît très bien dans l'actualité de tous les jours, mais la regarder d'une façon un peu différente, soit dans la technique, soit dans les contenus. Ça, c'est un peu notre philosophie. C'est pour ça qu'on l'a aussi nommé Spamflix.
En consultant votre catalogue, comme on dit, on voit des noms connus, comme Quentin Dupieux, mais l'idée, c'est quand même de faire découvrir des films dont l'horizon était limité et seulement visible en festival.
On ne peut pas prétendre de montrer des films nouveaux à tout le monde, parce que, bon, il y a Quentin Dupieux, comme ça, c'est un réalisateur culte plutôt connu. Mais comme vous dites, il y a plein de réalisateurs des premiers films aussi qui ne sont pas trop connus ou alors très peu et que nous, on pense pouvoir jouer ces rôles-là, de les présenter à un public qui aime Quentin Dupieux, donc qui sûrement, par affinité, peut aimer aussi des autres réalisateurs qui sont dans la plateforme, des découvertes des réalisateurs. C'est pour cela qu'on essaye toujours d'avoir plusieurs films du même réalisateur.
Les distributeurs ont-ils été faciles à convaincre ? pour se retrouver sur une plateforme de VOD, hein, fût-elle sur mesure.
Ouais, c'était plus dur au départ, c'est-à-dire quand la plateforme n'était pas lancée. Là que la plateforme est lancée, franchement, on a plus des facilités d'avoir des films, on a pas mal de requêtes aussi pour inclure leurs films sur notre plateforme. On a aussi sur notre site web, donc la version browser, on a la possibilité pour les gens d'inscrire leurs films et le soumettre pour que nous le regardions.
Mais les négociations ne sont pas toujours faciles.
Clairement, en étant une plateforme qui est opérationnelle dans le monde entier, la question des droits est toujours une très grosse question et ça présente beaucoup de travail parce qu'un film, il faut le négocier pour certains territoires et puis aussi tous les territoires qui sont bloqués ou qui ont été vendus.
En raison de la fermeture des salles de cinéma et de l'équipement des Français en ordinateurs, smart TV ou box divers, la VOD est évidemment la reine de la diffusion. Est-ce que vous aviez imaginé cela, Marcus Döpfner, au moment de lancer Spamflix ?
Nous, franchement, quand on avait programmé de lancer nos applis, on n'avait pas pu prévoir la situation actuelle. Donc, ouais, c'était un peu le hasard ou la chance, ça dépend un peu. Pour nous, c'est un bon moment. Clairement, comme une plateforme indépendante, il faut rejoindre notre public. Les modèles de la VAD qu'on a choisi, donc l'achat par film ou pour streaming, c'est pas à cause de notre line-up qui est très curé et on présente une cinquantaine de films, on rajoute un film par semaine, donc on n'a pas un catalogue de 500 films que le public peut regarder d'une manière infinie. Donc pour nous, c'est plus facile de faire de la VAD que de l'abonnement.
Merci Marcus Döpfner. Spamflix est maintenant disponible en France et avec les applications pour iOS, Android, Android TV et Chromecast. Pour tout savoir sur cette plateforme, c'est à l'adresse spamflix.com.
This is Cinerama.
Après Pinocchio, encore un film qui n'aura pas connu les salles et qui est d'abord visible en VOD, The Room de Christian Volkmann, un réalisateur français qui a marqué les esprits en 2006 avec Renaissance, un film d'animation. Alors cette fois-ci, place à un long métrage de fiction en prise de vue réelle avec presque que des êtres de chair et de sang.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Regarde, c'est notre maison.
Oui, notre maison.
Gay, je suis là.
Personne vous l'a dit ? Les derniers propriétaires, ils ont été tués dans cette maison.
Un couple de trentenaires, Kate et Matt, emménagent dans une vieille et belle maison qu'ils viennent d'acquérir. Elle est traductrice. Alors, hasard ou coïncidence, Olga Kurylenko, qui l'interprète, jouait déjà une traductrice dans son précédent film « Les traducteurs ». Son mari, lui, est peintre et interprété par Kevin Janssen. Alors évidemment, dès les premiers plans de la maison, hein, qui est tout sauf accueillante, on sent que cela va mal se finir, mais les deux protagonistes semblent bien être les seuls à ignorer les signes. D'ailleurs, même lorsqu'ils apprennent que le couple qui habitait précédemment cette maison a été sauvagement assassiné, ils ne paniquent pas plus que ça. Il faut dire que l'une des pièces de la maison s'avère pleine de surprises. Lorsque l'on demande ce que l'on désire à haute voix, la chambre vous l'offre d'abord effrayée, puis grisé, le couple demande des robes, des diamants, du champagne, jusqu'à la demande de trop. Le couple qui n'a jamais pu avoir d'enfant demande à avoir un bébé. Mais tous ces cadeaux sont bien sûr empoisonnés. Ce que donne la maison, elle le reprend sitôt le pas de la porte franchie. Kate et Matt, pour garder leur enfant, vont devoir le garder enfermé dans leur maison maléfique.
Je suis un vrai Van Gogh.
Oui, bien sûr. Et comment c'est arrivé ici ?
Qu'est-ce que tu désires le plus au monde ?
Je veux $1 million.
Pourquoi j'y ai pas pensé ? Dites-moi, vous vous amusez bien ? J'ai besoin de réponses. C'est de conseils que vous avez besoin. Cassez-vous avant qu'il soit trop tard.
The Room, à ne surtout pas confondre avec The Room de Tommy Wiseau, hein, qui est un nanar d'anthologie réputé pour être l'un des pires films du monde. The Room est, malgré son casting international, un film français, réalisé par Christian Volkmann. Alors si son nom ne vous dit rien, c'est sans doute parce qu'il n'en est qu'à son deuxième film. Le premier, un très beau et très ambitieux film d'animation en noir et blanc intitulé Renaissance, lui ayant pris pas mal de moins de 7 ans de sa vie et de sa carrière. Si Renaissance était extrêmement ambitieuse, The Room s'avère quelque peu plus attendu. Film fantastique, conceptuel, tournant autour de l'idée du cadeau empoisonné, du pouvoir à double tranchant, le film enchaîne les bonnes idées de scénario et les rebondissements de façon efficace, mais on déplore ce petit supplément d'âme qui lui manque, la faute sans doute aux comédiens, un peu trop lisses, et à des personnages qui manquent de complexité. The Room aurait pu être un conte amoral sur l'avidité des humains, sur la notion de désir qui nous anime, sur le désir de possession, le désir de plaisir, qui est quand même l'une des notions philosophiques les plus universelles qui soient. Mais le film se contente eh bien, de limiter les dialogues et la réflexion au profit de rebondissements assez peu effrayants. Et malgré une dernière partie plutôt perverse, eh bien, le film demeure trop poli pour nous rester durablement en tête.
Ces types dans votre genre, je les connais. Les créatures esclaves du désir. Vous voulez plus, toujours plus. Et puis, vous crevez.
On termine cette émission avec une sortie DVD Blu-ray. Fini la VOD et place au bel objet. Il s'agit de la réédition chez l'éditeur Le Chat qui fume du film de 1972 Le Couteau de glace, cinquième giallo réalisé par Umberto Lenzi. C'est évidemment Manu qui nous en parle.
This is Cinerama.
Et ça c'est clair.
Dès l'ouverture du Couteau de glace, Umberto Lenzi évacue la question de la violence en y apportant la réponse la plus sauvage et polémique. Alors même si en 1971, la problématique autour de la tauromachie n'était pas aussi vivace qu'aujourd'hui, il filme donc une corrida. Alors profitant d'un spectacle donné dans les arènes de Madrid, il ne s'agit pas de stock shot, mais de prises de vue réelles tournées sur place qui défilent en parallèle avec le générique. Les images du taureau malmené, violenté et ensanglanté avec l'arme habituelle, la pique, alterne avec le visage hébété de Martha Caldwell, la jeune femme muette de ce couteau de glace. Alors après cette introduction, il ne sera plus question de violence graphique tout le long du métrage. Un choix surprenant de la part d'Umberto Lenzi, que l'on a connu un peu plus racoleur. Ici, il prouve non seulement qu'il est un metteur en scène habile, instaurant une ambiance insolite en quelques plans furtifs, mais aussi penser un récit en termes de cohérence diégétique. Alors les images de mise à mort de l'animal violente le psychisme de l'héroïne qui reçoit l'agression de l'intérieur. Ces images pourraient tout aussi bien être mentales. Martha Caldwell n'est pas muette de naissance, ni victime d'un accident physique. En revanche, elle a réchappé adolescente à une catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à celle de ses parents. Alors depuis, aucun son ne sort de sa bouche. Bien que quadra, elle agit comme une petite fille ou au mieux une ado. Et de façon générale, son entourage la traite ainsi. Elle semble paralysée, mue par une angoisse existentielle, craintive de son entourage proche, hormis son oncle Ralph, féru d'occultisme avec qui elle vit dans une vaste propriété en Espagne. Alors elle reçoit la visite de sa cousine chanteuse de cabaret qui vient passer quelques jours auprès d'elle. Suivie par le docteur Laurent, Martha vit dans un cadre paisible, cotonneux, entouré de gens bienveillants. Alors son état fébrile finit par contaminer son environnement. Durant la première nuit, sa cousine est poignardée dans le garage. Évidemment, ce n'est qu'un début, les meurtres s'enchaînent, constamment filmés hors champ, mettant l'accent sur l'atmosphère parfois à la lisière du surnaturel, plutôt que sur l'aspect crapoteux coutumier de certains spécialistes du genre. L'intrigue multiplie les fausses pistes respectant la structure conventionnelle du giallo, se permettant même des digressions amusantes avec l'apparition d'un hippie prénommé Manson. Oui, on peut faire ça. Alors, suspect potentiel, laissant dériver le film vers un fantastique satanique à la manière de Toutes les couleurs du vice. Alors, la quasi-absence de chair lacérée, de sang qui coule sur des poitrines dénudées, de rasoirs scintillants tranchant les gorges des victimes, rentre en résonance avec une mise en scène d'une étonnante sobriété, d'une rigueur presque anglo-saxonne, si quelques zooms ne venaient nous rappeler le caractère latin du film. Par ailleurs, Lenzi fait un usage du zoom souvent intéressant, permettant d'enchaîner les séquences par des trouvailles visuelles pertinentes. Alors si parfois les effets sont grossiers et répétitifs, notamment par exemple zoom sur l'ancienne commissariat et plan suivant à l'intérieur du commissariat, certains enchaînements se révèlent très audacieux, apportant une réelle dynamique à ce giallo astucieux et envoûtant, supérieur à la moyenne. Alors la résolution finale, assez peu surprenante, mais très bien amenée, peut paraître simpliste, comme le souligne dans le bonus du DVD Blu-ray édité par Le Chant qui fume, Jean-François Roger, pointant le fait que la plupart des giallis sont stupides d'un point de vue de la vraisemblance psychologique. Alors la dimension Freud pour les nuls, qui œuvre malgré tout dans le divertissement, aussi brillant soit-il. Mais l'intérêt est ailleurs. Le couteau de glace balaie rapidement la sensation de déception liée à sa trop grande sagesse, pour atteindre une grâce visuelle presque poétique, dominée par le travail splendide du chef opérateur Joseph Agayo Hiro et l'envoûtante musique de Marcello Giombini, qui s'éloigne du style nerveux et brouillon du cinéma habituel de Umberto Lenzi. Alors par intermittence, dans ces moments inquiétants où Martha se perd dans un espace étouffant, Le Couteau de glace rappelle un autre thriller tourné la même année, 1971, enfin 72, substituant une muette par une aveugle, Terreur aveugle de Richard Fletcher. Mais là où Fletcher intègre à merveille le handicap du personnage joué par Mia Farrow dans sa mise en scène même, Lenzi se contente, en bon artisan, d'aller au bout d'une histoire explicative, ôtant un certain mystère à l'ensemble. Alors nonobstant ces défauts mineurs, réalisé entre deux autres giallos de Umberto Lenzi, Le Tueur à l'Orchidée et Spasmo, Le Couteau de glace, coproduction avec l'Espagne, tourné visiblement avec un budget très très réduit, demeure un excellent giallo qui doit essentiellement sa réussite à l'interprétation habitée de Carol Baker, très crédible en femme enfant surprotégée par son entourage. L'ex-baby-doll d'Elia Kazan confère à son personnage une dimension mélancolique qui prendra toute sa mesure dans le dénouement final. Le film sort en DVD Blu-ray chez Le Chat qui Fume avec en bonus de nombreux suppléments, dont la bande originale du film.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
C'est pas possible !
Non, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma camp !
Faute de moyens techniques suffisants, Cinérama reste encore en mode confiné quelques temps avant de retrouver, on l'espère, bien toute son équipe bien contente de postillonner dans les micros. À la semaine prochaine.
This is Cinérama.